Santé pour tous. Santé pour tous. Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolloux pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
La lutte contre la COVID-19 n'est pas seulement l'affaire du corps médical ou des autorités politiques. La réponse à cette pandémie nécessite l'implication de toutes les composantes de la société. La COVID nous a montré qu'on est très vulnérable et qu'il ne suffit pas d'être chercheur dans son coin, il faut la collaboration. Et là aujourd'hui, nous avons les chercheurs conventionnels, les chercheurs traditionnels, des praticiens cliniciens, tout le monde qui veut se mettre ensemble pour trouver une solution pour le bien-être de la communauté. Et c'est ce que notre pays aussi cultive en matière de recherche. Ensemble avec des chercheurs que nous recevons dans ce magazine de santé, on va analyser leur savoir et s'il y a d'autres tests à faire sur ces savoirs et finalement quelles sont les solutions des recettes ou des produits miracles. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Interview, reportage et dossier ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Bienvenue dans ce temps d'antenne consacré à la santé sur Radio de la Paix. Et nous avons des invités avec lesquels nous avons échangé. Nous avons parlé de médecine traditionnelle, de médecine chinoise. Nous parlerons également de la Covid, de leur contribution, on va dire, dans ce combat mondial. Bonjour.
Bonjour, mon nom est Patrick Chan. Je viens de France, mais je fais de la médecine chinoise depuis 40 ans et je représente une tradition familiale dont je représente la 16e génération. Voilà.
Moi, je suis Boubacar Fofana. Je représente l'association Elad Boubacar Gambi Sako, qui privilégie le dialogue des cultures, des traditions. Et c'est dans le cadre du dialogue des traditions médicinales que nous sommes là aujourd'hui, faire dialoguer les médecines traditionnelles chinoises et africaines.
Alors, comment s'est fait ce partenariat ?
Il s'est fait par l'intermédiaire de M. Fofana, parce que je préside aussi une association humanitaire. On a fait des soins en médecine chinoise dans un certain nombre de pays depuis une quinzaine d'années. Et on avait commencé à faire de la formation au Bénin, à la demande de tradipraticiens locaux. Et puis, l'expérience a été intéressante et M. Fofana m'a proposé de voir s'il serait possible d'envisager quelque chose du même ordre ici.
Et à ce jour, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette collaboration ?
On a commencé avec une vingtaine de tradipraticiens. Ça a été une expérience très enrichissante pour eux, déjà pour apprendre à faire un diagnostic, renouer avec les pratiques des traditions médicinales. Donc il y a eu beaucoup d'avancées.
Je suppose que vous avez eu beaucoup à partager avec les tradipraticiens de la Côte d'Ivoire. Venant d'eux et venant de vous, qu'est-ce qui a été donné ?
C'est quelque chose qui prend du temps. Donc objectivement, dans un premier temps, on a plus offert des informations qu'on en a recueillies, parce qu'il se trouve que la médecine chinoise est restée à peu près intacte pendant plusieurs millénaires et qu'elle a une vision structurée du vivant qui intéresse parce que c'est basé sur l'observation de la nature. Et le point commun, c'est que l'être humain est un produit de la nature et qu'on doit faire appel à des ressources les plus naturelles possibles pour le soigner. Mais ces échanges sont restés sur un plan purement culturel. Sur le plan médical, on s'est surtout axé sur la médecine chinoise puisque c'est ce qui était le but de leur demande.
Combien de types de médecine il existe ?
Il y a ce qu'on appelle les ethnomédecines, c'est-à-dire les médecines traditionnelles, anciennes, des médecines savantes. Chaque civilisation, en fait, a secrété un système médical à l'image de sa vision de la vie ou de la mort ou de la santé ou de la maladie. Actuellement, je dirais qu'il y a surtout la médecine chinoise, la médecine védique de l'Inde, la médecine ayurvédique, la médecine tibétaine, qui sont encore des systèmes vraiment vivants. Il y a ensuite les médecines autochtones, qui sont aussi des ethnomédecines, mais qui sont basées essentiellement sur une tradition orale, sans le support écrit, qui a traversé le temps. Et là, on a la médecine de l'Afrique, la médecine amérindienne. Il y a eu aussi la médecine arabe, mais je pense qu'elle fait encore partie des systèmes médicaux savants, mais on la connaît moins pour l'instant. Après, il y a la médecine occidentale, mais qui n'est pas une médecine traditionnelle. La médecine dite traditionnelle, c'était celle d'Hippocrate. Mais la théorie des humeurs, qui était proche, on est à la même époque que la Chine, on est avant Jésus-Christ. Celle-ci a disparu. Maintenant, c'est l'évolution des sciences et des technologies qui crée des révolutions permanentes. Donc, on appelle ça une médecine moderne. Mais on considère que on appartient à la vie ne nous appartient pas, et dans la médecine moderne, on influe sur le vivant, on manipule le vivant, donc on est dans deux approches du vivant très différentes.
Monsieur Fofana, je vais venir à vous, c'est de savoir quels ont été vos acquis à travers ce partenariat.
On a eu quelques avancées. Il s'agissait pour nous de pouvoir donner des bases à nos tradis praticiens locaux pour pouvoir faire un diagnostic. Parce qu'on pense que c'est ce qui leur manque. Et puis, surtout, sortir aussi de l'habitude que de la pharmacopée. Avec la médecine chinoise, on leur offre plus d'outils thérapeutiques. Aujourd'hui, ils connaissent l'acupuncture, ils ont renoué avec le massage, avec les ventouses. Et puis, bon, on va ajouter d'autres outils, par exemple les arts de santé, de longue vie, comme le qigong, etc.
Voilà, d'accord. Alors, que savoir réellement de la médecine chinoise?
C'est un système médical à part entière. Alors, c'est une médecine qui a quelques 3000 ans d'âge, qui est restée à peu près intacte jusqu'à la dernière révolution culturelle. Maintenant, elle est un peu plus mélangée en Chine à la médecine occidentale. Justement, elle s'est transmise à travers des traditions familiales comme ça. L'acupuncture et les plantes, les herbes médicinales, les substances médicinales sont les grosses branches thérapeutiques qui font face à la pathologie plus vaste. Après, on a les branches qu'a évoquées M. Fofana. Il y a une forme de psychothérapie, il y a des exercices de santé, il y a le massage, etc. Mais ce qui est très important, c'est que toutes ces branches sont articulées autour d'un tronc. Et le tronc, c'est un tronc commun qui est celui de poser un diagnostic. C'est-à-dire que le réflexe qu'on devrait avoir quand on reçoit un patient, c'est pas de se dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux lui donner, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'il a et pourquoi il a ça. On est toujours pris par ces urgences-là. Dès qu'une maladie sort, on cherche un traitement au lieu de se dire mais attends, d'où elle sort, pourquoi? Si on comprend mieux le mécanisme de départ, le traitement devient plus simple et plus évident et mieux ciblé. Et on s'aperçoit parfois qu'avec des moyens thérapeutiques simples, on arrive à faire des choses vraiment efficaces. Alors que si on n'a pas de vrai diagnostic, on n'a pas de vraie compréhension de ce qui se passe, on déploie toute une batterie thérapeutique et finalement qui parfois génère des nouvelles maladies. Ça s'appelle la iatrogénèse parce que des fois les traitements sont puissants, mais ils génèrent des nouveaux problèmes pour lesquels il faut des nouveaux traitements. Et on est dans une errance thérapeutique sans fin. L'intérêt de ces médecines traditionnelles, c'est qu'elles ont observé le vivant depuis longtemps. Elles ont vu le lien entre l'être humain et la nature. Une fois qu'on a cette vision éco-médicale, j'allais dire, en maintenant qu'ethno-médicale, c'est-à-dire que la nature humaine nous parle, à ce moment-là, effectivement, les traitements coulent de source. Ça ne veut pas dire qu'on fait des miracles, mais ça veut dire qu'au moins, on connaît les limites de ce qu'on fait et rend pas plus malade qu'on ne soigne. Mmh. Et ça, disait Hippocrate, premièrement, ne pas nuire, on devrait s'en rappeler chez nous aujourd'hui.
Quelle est la place de la médecine traditionnelle dans la bataille contre l'épidémie de la Covid-19 que nous vivons depuis l'année 2020?
Ouais. C'est vrai que la source de cette épidémie semble être la Chine. Les circonstances ne sont toujours pas vraiment élucidées. Quand je vous disais d'où ça vient, ça fait partie des questions. Il a fallu déjà attendre un an pour que l'OMS se rende là-bas. Donc c'est déjà un petit peu tardif pour chercher une cause de départ d'incendie. Il faut savoir aussi que ça a été quand même en Chine éradiqué efficacement, en grande partie aussi grâce à la médecine traditionnelle. Ils ont joint les deux médecines. Donc ils ont effectivement développé un arsenal de pharmacopée qui a permis d'enrayer l'épidémie assez efficacement. En fait, pendant des millénaires, ils ont été ravagés par des épidémies importantes. Et on sait aussi que depuis le 11e siècle, puis le 16e siècle, c'est eux qui quasiment ont inventé le principe vaccinal avec la variolisation. Donc, on sait ce que c'est qu'une épidémie en médecine chinoise. On sait justement qu'une épidémie se caractérise par trois choses. Une grande contagiosité, bon ça c'est sûr qu'on l'a. La similitude des symptômes, là déjà c'est moins certain avec le Covid. Et puis, une mortalité importante. Et là aussi, bon ok, il y a une mortalité, mais si on regarde le nombre de cas par rapport au nombre de personnes qui décèdent et l'état de santé des personnes qui décèdent, on voit bien que c'est surtout une épidémie qui s'attaque aux plus faibles. C'est pas la peste ou le choléra. C'est-à-dire que si on est touché ou même la grippe, on n'a pas tous les mêmes symptômes. Il y a une immense majorité, 97-98% des gens, qui n'ont pas de symptômes, même quand ils sont porteurs. Donc le risque, c'est qu'ils peuvent le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc on a l'impression que ce virus est plus un espion qui sabote les défenses immunitaires de ceux qui sont déjà faibles, plutôt qu'un ennemi déclaré contre lequel on peut lutter de manière loyale. Donc c'est pas une épidémie normale, et c'est pour ça qu'ils sont bien embêtés avec ce truc-là. La contagiosité, c'est pas la gravité. On le voit, elle est très contagieuse. Alors on a beau mettre des barrières et des masques dans tous les sens, elle passe quand même, parce que essayer d'arrêter le vent, c'est à peu près aussi facile que ça, et le vent transporte tout, les pollens, les virus, donc c'est difficile d'arrêter le vent. Mais la gravité est très relative. Donc le traitement, en médecine chinoise, c'est une médecine impériale, c'est une médecine de paix. C'est pas une médecine de guerre. Alors, dans les épidémies classiques, normalement, on isole uniquement les malades. On les met en quarantaine. On vaccine uniquement les personnes faibles, puisque ça augmente leurs anticorps. Mais on vaccine pas ceux qui ont déjà des anticorps. Donc, cette immense majorité des gens qui peuvent être contaminés mais ne pas développer la maladie, c'est très bien, on les teste, faut qu'ils évitent de la transmettre à quelqu'un d'autre. Mais eux, c'est pas la peine de les vacciner. Ils sont déjà vaccinés. En plus, la vaccination n'empêche pas d'attraper une maladie ni de la transmettre. Ça permet juste de résister un peu mieux. Ça pose des vraies questions par rapport au lobbying vaccinal qui est en cause. Et je vous dis bien, je ne suis pas anti-vaccin. Les Chinois ont inventé quasiment la vaccination et la vaccination est le meilleur moyen de lutter contre les vraies épidémies. Mais celle-ci, elle est franchement particulière.
Alors que propose la médecine traditionnelle?
La médecine traditionnelle n'a pas le moyen de voir les virus. Parce que nous, le diagnostic, on le pose avec nos yeux, avec la palpation, avec les questions. On fait de la médecine clinique, c'est pour ça qu'elle a traversé le temps. Parce que l'être humain, c'est l'appareil quelque part le mieux adapté au diagnostic de la pathologie humaine. Donc, nous, ce qu'on peut voir, c'est les symptômes des patients. Et on peut voir aussi les signes des patients qui ne sont pas forcément touchés, mais qui ont justement un âge avancé, une comorbidité, du surpoids, de la tension, du diabète, des choses comme ça, des cancers. Et là, on se dit, si on traite le fameux terrain, c'est-à-dire la capacité immunitaire de la personne, on n'aura pas besoin de faire la course au virus. Donc si on arrive à changer le climat, à assainir la pièce, les murs, faire rentrer l'air, la lumière, rétablir l'équilibre hydrique, thermique, les champelles, mais ça ne nous intéresse pas, parce qu'on a su modifier le climat. À propos de climat et d'aération, les personnes âgées que l'on va confiner à l'intérieur d'une maison, qui vont être privées des rayons du soleil, qui est le principal fournisseur mondial de vitamine D, au lieu de leur faire respirer de l'oxygène pour renforcer le système pulmonaire, qui est le plus fragile face au Covid, on va leur faire porter en permanence un masque qui fait qu'ils respirent leur propre gaz carbonique au lieu de prendre le bon air le plus possible. Donc il y a des mesures qui sont prises collectivement, je dirais par peur, mais qui ne correspondent pas à une réalité médicale. Et puis la peur fait baisser l'immunité. Comment une politique médicale qui d'un côté inquiète, fait peur à tout le monde, donc fait baisser l'immunité de tout le monde, et propose ensuite un vaccin pour faire remonter l'immunité. La politique vaccinale devrait conduire à la prudence, mais pas à la peur. Et le problème, c'est que voilà, les gens, soit ils sont dans le déni, soit ils passent directement à la panique, et c'est difficile.
L'on doit faire confiance à la médecine traditionnelle pour endiguer cette pandémie-là.
Non, je pense que dans des situations comme ça, d'abord, il faudrait vraiment savoir d'où ça sort. On est très très vite taxé de complotistes dès qu'on émet un doute. Or, le doute, c'est la base de l'esprit scientifique, donc c'est compliqué. Mais disons que la médecine traditionnelle seule, je pense en prévention. Moi, j'ai été invité notamment par des laboratoires en Suisse pour réfléchir à des compositions de formules en médecine chinoise pour la prévention et pour le traitement des phases initiales du Covid. Après, moi, je me suis penché surtout sur les manifestations cliniques qui concernent l'Europe. Donc, il y aurait peut-être des adaptations si ça survient dans d'autres régions, puisqu'on voit que selon les pays, ça prend des formes parfois différentes. Mais je pense qu'on est vraiment dans un domaine, les épidémies, où la collaboration, effectivement, des mesures sanitaires, sociales, des mesures médicales d'urgence pour les plus touchés et des mesures préventives grâce à des médecines « douces », entre guillemets, ça veut dire qu'ils ne nuisent pas davantage, mais ça ne veut pas dire que c'est toujours si doux que ça. Tout ça mis ensemble, ça serait un mariage de raison et ça serait une façon intelligente de faire face à cette maladie. On n'en est pas là.
Je vais revenir avec M. Fofana. Est-ce que vous avez trouvé une réponse au Covid? Quelles ont été les réponses que vous avez pu proposer?
L'action ici, elle intéresse directement le programme national de médecine traditionnelle qui a su organiser les tradis praticiens, qui a su recueillir aussi auprès de certains médicaments qui sont en cours de traitement avec nos scientifiques. Mais comme je rappelle, nous, c'est de faire les ponts entre les deux traditions et puis voir comment on peut s'enrichir par rapport à cette problématique-là.
On va profiter de la question pour la poser. Effectivement, vous avez fait des propositions tout à l'heure. Il a dit comment booster ce système,
oui,
surtout accessible à tout le monde.
De façon simple, effectivement, c'est que les fameuses mesures barrières, il faut les appliquer quand on est à proximité durable de personnes qu'on ne connaît pas et qui pourrait peut-être être porteuse. La difficulté, je vous disais, de ce virus, c'est qu'on peut le porter et le transmettre à quelqu'un d'autre alors que nous, il ne nous a rien fait. Donc effectivement, de ce point de vue-là, ça crée une espèce de paranoïa de toute une population, puisqu'on peut en vouloir aux gens de nous transmettre quelque chose, même si eux n'ont rien eu. Donc, quand on est entre personnes qui savent qu'elles n'ont déjà rien, parce qu'il y a eu un test ou quoi, on a une certaine liberté. Et surtout, quand on est seul, quand on est un peu à distance, il faut, à ce moment-là, je pense, pouvoir retirer le masque. Quand il y a du bon air, pouvoir le respirer. Quand on peut sortir un peu dehors, profiter. Par exemple, avaler de la vitamine D est moins intéressant que de s'exposer au soleil, parce que c'est un fournisseur naturel de cette vitamine. C'est comme ça qu'on la fabrique normalement. Profiter de ce que la nature peut apporter de force, ça c'est vraiment un conseil basique. Le sommeil est important, parce que quand on dort, on recharge l'énergie des organes, ça a un effet végétatif important, donc tout ce qui est surmenage, manque de sommeil, ça aggrave. Les émotions, on les ignore malheureusement, mais encore une fois, la peur et l'inquiétude, c'est anxiogène, c'est même cancérogène parfois, donc ça fait baisser l'immunité de façon claire. Les personnes âgées sont déjà des personnes craintives par nature, donc nourrir l'inquiétude, ça c'est pas très bon. Maintenant, on peut pas faire semblant d'être bien si on a peur, donc ne pas céder à des émotions négatives, la prudence suffit. C'est différent de la peur. Après, il y a effectivement faire de l'exercice, ça fait circuler le sang, l'énergie dans le corps. Donc la statique, l'immobilité n'est pas une bonne chose. Il faut bouger suffisamment. Et là, on s'adresse plus aux personnes qui ont des comorbidités, comme l'obésité ou l'âge, parce que des fois, c'est des facteurs qui font qu'on ne bouge plus beaucoup. Une alimentation à peu près saine, évidemment, parce que ça, c'est notre carburant, notamment par rapport aux poumons, on respire aussi par la peau. Et c'est comme ça que se transmet le Covid, c'est-à-dire par le nez, par la bouche, par la peau, par le contact. C'est quelque chose qui passe par le respiratoire. Donc prendre soin de son système respiratoire, c'est des éléments de base. Après, effectivement, il existe des traitements. L'acupuncture, par exemple, ça n'appartient pas qu'aux Chinois. Tous les humains ont des points sur eux. En fait, les gens ont une pharmacie sur eux, ils ne le savent pas. Mais si on met les points au bon endroit, on peut effectivement stimuler certaines fonctions de défense ou d'adaptation ou d'immunité. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît en médecine chinoise et qu'on est en train de transmettre à des tradis praticiens parce qu'il y a des points importants qu'il n'est pas forcément compliqué de faire, même si on ne connaît pas tout le reste. En pharmacopée, le but, ce n'est pas plus de vendre un vaccin américain que des plantes chinoises. Le but, ça serait de travailler avec des pharmacologues ou des ethnobotanistes locaux et de voir qu'est-ce qui serait l'équivalent dans ce qui existe dans les plantes traditionnelles ici qui pourrait faire le même travail que certaines plantes connues en médecine chinoise. Mais là, il y a un écart dans le temps qui va être difficile à combler vu l'urgence du Covid.
Quelles sont vos stratégies aujourd'hui de prise en compte concernant les ressources de la médecine traditionnelle dans la lutte contre la Covid?
Là, on vous remercie de nous inviter, mais j'allais dire, nous on fait de l'information. Le principe du médecin ou de l'ethnomédecin, c'est de répondre aux gens qui viennent le voir pour lui demander de l'aide. Donc nous, on ne fait pas de la propagande ou quoi que ce soit. On n'est pas dans une politique de santé globale. Si on nous demande notre avis, on est heureux de le donner. Et on le donne évidemment avec plaisir, de façon individualisée à chaque personne, pour qu'elle puisse se porter au mieux en termes de prévention, voire en termes de traitement. J'ai mis par exemple au point des formules préventives et thérapeutiques, notamment pour les phases initiales, parce que dès que les patients commencent à avoir des symptômes vraiment plus graves, bah, ils se retrouvent tout de suite à l'hôpital sous ventilateur, donc c'est plus pour nous, on va dire, hein, la gravité. Mais par exemple, j'ai déjà des témoignages de personnes qui ont utilisé ces traitements dans les premiers symptômes, et ça a duré 3-4 jours et c'était fini, donc c'est possible. Peut-être le virus est tellement méchant que même les médecins ne peuvent rien contre lui.
En général, est-ce que les praticiens que vous rencontrez qui profitent de vos formations vous ont fait cas de certaines difficultés dans leur recherche?
Comment renforcer le terrain des gens dans des mesures simples et efficaces qui peuvent aider un maximum de gens sans zoomer? Cette prévention, elle est valable aussi pour une dingue ou pour une grippe ou pour... voilà.
Nous sommes à la fin de cet échange. En tout cas, merci d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre appel.
Merci à vous.
Et qu'est-ce que vous aurez souhaité que l'auditeur retienne de cet échange?
Prendre le bon côté des consignes qui sont données pour être prudent et éviter surtout de fonctionner par peur. Il faut utiliser le cerveau qu'on a au bout de notre moelle épinière, c'est important.
Monsieur Fofana.
Concernant la médecine traditionnelle et la médecine moderne, des travaux sont en cours, donc il y a des espoirs que les choses iront en s'améliorant dans le dialogue de ces deux traditions.
Merci infiniment.
Voilà. C'est moi qui vous remercie.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
On le sait, coronavirus, Covid-19, les chercheurs estiment que certains principes de médecine traditionnelle chinoise pourraient permettre de mieux se protéger contre le coronavirus. Ils relèvent notamment la pertinence de plusieurs plantes et méthodes censées renforcer l'énergie vitale et protéger contre les agents pathogènes externes. Toutefois, ils précisent aussi que des travaux devront être validés avant une éventuelle mise en application. Patrice Chan, président de l'ONG Humanitrade France, qui était présent en Côte d'Ivoire, que nous avons reçu dans ce magazine de santé, a organisé justement avec la collaboration du Programme national de promotion de la médecine traditionnelle la deuxième édition de la formation aux médecines traditionnelles chinoises. En compagnie de Boubacar Fofana de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée d'El Hadj Boubacar Gambi Sako, initiateur de cette rencontre, nous avons échangé sur des solutions, recettes ou produits que possède ou propose la médecine traditionnelle chinoise dans la lutte contre la Covid-19. Fin de santé pour tous. Merci et à bientôt.